Chapitre 7e. C'était une grande affaire pour Hélène que ces visites, et ce qu'on lui avait dit de ceux qu'elle devait voir n'était pas de nature à la rassurer. Sans doute le maire n'était pas bien effrayant, ni le curé, mais le vicaire, mais le délégué cantonal. Elle avait encore dans les yeux le regard du vicaire, et le portrait que Valpinson lui avait tracé de M. Le Beurrier n'était pas engageant. C'était une question qui avait son importance, de savoir par lequel elle commencerait. Après examen, et considérant que le curé était son adversaire et le maire son défenseur, elle se décida pour le curé. Et le lundi, sans plus tarder, elle alla sonner à la porte du presbytère un coup si discret qu'au bout de quelques instants elle dut le répéter un peu plus fort. C'était une maison de belle apparence, divisée en deux parties, la plus grande occupée par le curé, la plus petite par le vicaire, chacun ayant sa porte particulière surmontée d'une croix. La façade donnait sur la place. À côté de l'église et derrière s'étendait un vaste jardin potager, avec charmilles et berceaux, divisés en deux aussi, de façon à ce que le curé et le vicaire en eussent l'un et l'autre une part. Enfin, la porte fut ouverte, et sur le seuil parut une servante d'âge canonique, fraîche cependant, rosée, lustrée, propre comme un louis neuf, imposante et affable en même temps. « Qui dois-je annoncer ? » demanda-t-elle avec une révérence. Hélène se dit qu'elle devait être brave et qu'il fallait se présenter fièrement, son drapeau. « L'institutrice communale. » La servante recula comme si un serpent s'était dressé devant elle, et Hélène put croire qu'elle allait se signer, mais il n'en fut rien. « Je vais prévenir, monsieur le curé. » Après quelques instants d'attente, on introduisit Hélène dans une petite bibliothèque aux murs garnis de rayons en sapin verni, sur lesquels étaient rangés environ 2000 volumes, distribués non par format, mais d'après un arrangement particulier de leur propriétaire, qui avait des livres non pour les étaler aux yeux des curieux, mais pour les trouver facilement et méthodiquement quand il en avait besoin. Devant un petit guéridon sur lequel était posée une cafetière, un sucrier et une tasse en argent, se tenait le curé, assis carrément dans un fauteuil, un coussin en tapisserie sous les pieds, un journal entre les mains. Il répondit poliment au salut d'Hélène, mais sans se lever. « Pourquoi donc, mademoiselle, vous faites-vous annoncer sous votre titre et non pas sous votre nom ?»« Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, monsieur le curé. Vous êtes franche, il paraît. Il me semble que ce serait vous faire injure que de ne pas l'être avec un homme tel que vous. Vous me connaissez ? Je vous vois. » L'abbé Well posa son journal et un sourire éclaira son visage rubicon, accentuant encore le caractère bienveillant et bon enfant de sa physionomie ouverte. « Alors vous n'avez pas voulu me prendre en traître, » dit-il. « Eh bien, puisque vous êtes franche et que vous m'estimez assez, pour me parler librement, voulez-vous, mon enfant, me dire dans quelle disposition vous arrivez ici ?»« Oh, bien volontiers, monsieur le curé. » Et en quelques paroles rapides, elle expliqua ses dispositions, elle répéta ce qu'elle avait déjà dit au député Méraud, en le complétant par ce que celui-ci lui avait demandé et qu'elle avait adopté. À mesure qu'elle parlait, le sourire du curé s'accentuait et il était évident qu'il éprouvait une réelle satisfaction. « Pas d'affaire, » dit-il lorsqu'elle se tut, « pas d'affaire, vous ne nous ferez pas d'affaire. Mais c'est parfait cela. Je vois avec plaisir que votre physionomie n'est pas trompeuse et que vous êtes une excellente personne, aussi intelligente que bonne. La paix, n'est-ce pas? Nous vivrons en paix. Soyez sûr, monsieur le curé, que je ferai tout pour cela. Je veillerai à ce que personne ne vous tourmente. Oui, j'y veillerai. Car vous savez, il y a des gens, bien intentionnés d'ailleurs, que leurs ailes entraînent quelquefois trop loin. Je veillerai à les retenir, je vous le promets. » Et il parut faire cette promesse comme un don de faveur insigne, ou tout au moins comme si, prenant cet engagement, il sentait de grandes difficultés à le tenir. Puis tout de suite, et même un peu bien vite, il ajouta, « Vous avez l'intention de rendre visite à monsieur l'abbé Périchard, mon vicaire, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le curé. »« Eh bien, répétez-lui ce que vous venez de me dire, tout de suite, en sortant d'ici. Ça sera utile, très utile, mon enfant. »« Je le lui répéterai, seulement pas tout de suite. Et pourquoi cela ?»« Parce que mon intention n'est pas de voir monsieur le vicaire tout de suite. »« Avez-vous une raison ?»« J'entends, une raison que vous vouliez dire. »« C'est qu'en sortant d'ici, je dois faire ma visite à monsieur le maire. » « Sans doute, sans doute. Mais puisque vous êtes déjà dans la maison, et puisque M. l'abbé Périchard est chez lui, je ne sais pas s'il ne sortira point. » Évidemment, le curé, désirait que cette visite eût lieu immédiatement. Cependant, Hélène ne céda pas, mais elle crut devoir expliquer pourquoi elle ne se rendait pas à ce désir. « C'est par vous que j'ai commencé mes visites, monsieur le curé, non seulement parce que vous êtes monsieur le curé, mais encore parce que vous serez, si vous le voulez bien, le directeur de ma conscience. Je suis bien âgé, mon enfant, j'ai l'oreille dure et monsieur l'abbé Périchard. Me renverrez-vous donc, monsieur le curé, quand j'irai m'agenouiller devant vous ? Non, mon enfant, non, certainement, mais enfin... » Une fois encore, elle osa lui couper la parole. « Alors, monsieur le curé, il en sera ainsi, si vous le permettez. Je vous disais donc que j'avais voulu que la première visite que je faisais dans ce pays fût pour vous. Mais la seconde doit être pour monsieur le maire. Il comprendra que j'ai commencé par vous quand je lui expliquerai franchement mes raisons. Il pourrait être blessé que je fisse passer monsieur le vicaire avant lui. C'est fâcheux, très fâcheux. Mais vous arrangerez les choses, n'est-ce pas, mon enfant ? Surtout pas d'affaires. Tâchons de passer en paix les derniers jours que le bon Dieu nous donne. » Les derniers jours ? Il pensait à lui, le bon curé, et c'était pour lui qu'il parlait, non pour Hélène, qui n'était point d'âge à prendre souci de ses derniers jours. Il n'y avait qu'une courte distance du presbytère à la maison du maire, et Hélène ne tarda pas à arriver à une grille flanquée de deux pavillons. Cette grille ouvrait sur un jardin au milieu duquel s'élevait un vaste bâtiment à deux étages qui, à Paris, eût pu s'appeler un hôtel. Cet hôtel, bâti au XVIIIe siècle, Madame Mamet l'avait recueilli dans la succession de son premier mari, et elle l'avait apporté à son second, qui, disait-on, ne l'avait épousé que pour sa fortune. Comme au presbytère, il fallut qu'Hélène sonnât plusieurs fois, car les pavillons n'étaient point habités par un concierge. Enfin, une servante accourut, faisant claquer ses sabots, le tablier retroussé dans sa ceinture, ayant l'air affairé et pressé. Monsieur le maire n'était pas chez lui, mais il allait rentrer d'un moment à l'autre. Hélène demanda à l'attendre. « Tout de même, quoi que je vais vous dire, madame est en lessive, et vous allez trouver la maison sans dessus-dessous. Je ne veux pas déranger madame. Quand on vient pour monsieur et qu'il n'est pas là, c'est madame qui reçoit toujours. » Puisque tel était l'ordre, Hélène n'eut rien à répliquer. Comme l'avait dit la servante, la maison était sans dessus-dessous. Il y avait du linge partout, empaqué sur les tables, celui qui venait d'être détendu, plié sur les chaises, et par les fenêtres qui donnaient sur une vaste cour plantée de pommiers, on apercevait des draps, des nappes, des serviettes, des mouchoirs, que le vent balançait sur des cordes et que, de temps en temps, il faisait claquer comme s'il allait les déchirer. De tout ce linge s'exhalait une bonne odeur de lessive qui emplissait la maison. Bien qu'elle fût terriblement occupée à mettre des épingles en bois à son linge, Madame Hamet se dérangea quand elle sut que la personne qui demandait monsieur le maire était la nouvelle institutrice. Hélène vit entrer dans le salon où on l'avait introduite et où elle n'avait pas trouvé un siège pour s'asseoir, une grosse petite femme, roulant comme une boule, rouge, essoufflée, s'épongeant le front avec un mouchoir qu'elle venait de prendre sur une corde et qui était raide comme une feuille de papier. « Oh, la lessive, ma chère demoiselle !» s'écria Madame Hamet. « Ne m'en parlez pas. Je ne la fais que deux fois par an, au printemps, à l'automne. Deux calvaires. Vous allez bien ?» « Je vous remercie. Enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Hamet va arriver. » Elle disait beaucoup de choses, en peu de mots, madame la mairesse, et cependant, tout en parlant, elle tenait ses yeux levés vers le ciel, paraissant suivre de gros nuages noirs qu'un vent d'orage amoncelait. « Nous allons avoir de l'orage, c'est sûr. Et ma lessive, mon Dieu, ma lessive. Croyez-vous au cierge brûlé, à Sainte-Accalmie ? Non, dit Hélène. Tant pis, et tant mieux. Tant pis parce que nous en aurions allumé un pour détourner l'orage, tant mieux parce que ça fera plaisir à M. Hamet et au conseil municipal. Mais, madame, vous pouvez en allumer un? Non, parce qu'il faut que tout le monde dans la maison soit en communion de croyance. Je puis m'en aller. Mais avant que Madame Hamet acceptât ce sacrifice pour sauver sa lessive, un coup de tonnerre éclata assez rapproché et la maîtresse se leva affolée. « Vite, au linge » cria-t-elle. « Je vais vous aider, » dit Hélène. À ce moment, la sonnette de la grille d'entrée tinta, et Hélène vit s'avancer à pas compter, imposant et important, un homme jeune encore, grand, solide, bien bâti, monsieur le maire en personne. « Arrive donc vite !» cria Madame Hamet. « Tu vas nous aider à rentrer le linge, dépêche-toi !» Et, docile à cet appel, monsieur le maire se dépêcha. « Mademoiselle Marguerite, » dit la mairesse, tout en courant et en montrant Hélène de la main. « Elle veut bien nous aider. » Déjà, Hélène s'était mise à l'ouvrage et elle avait retiré de dessus les cordes un certain nombre de pièces de linge qu'elle allait porter à la maison lorsque Madame Hamet lui dit de les déposer sur les bras de Monsieur le maire. « Ne craignez rien, » cria-t-elle superbement. « Il est fort comme un Turc. » Il fallait se presser, car le bruit du tonnerre se rapprochait et déjà tombait de larges gouttes de pluie. Grâce à la force de Monsieur le maire, à l'empressement de Madame Hamet, d'Hélène et des femmes de service, la lessive fut rentrée à temps. Alors seulement Monsieur et Madame Hamet s'occupèrent d'Hélène, et Madame la mairesse voulut payer le service qu'elle venait de recevoir. « Croirais-tu que Mademoiselle Marguerite n'a pas voulu brûler un cierge à Sainte-Accalmie ? Mais je l'espère bien, » dit le maire. « Ce n'est pas précisément pour enseigner le culte de Sainte-Accalmie, ou de Sainte-Alouvie, ou de Sainte-Accroupie, que Mademoiselle vient à Ivranche. » Quand l'orage menace et que ma lessive va mouiller, moi j'inventerai des nouveaux saints, dit Madame Hamet. Vous voyez, mademoiselle, dit le maire en souriant, eh bien ce que nous attendons de vous, c'est que vous donniez à nos jeunes générations d'autres idées.